Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, le poète Jean-Pierre Siméon, à qui nous avions consacré une première émission il y a quelques semaines, vient de publier un tout nouveau recueil de poèmes chez Gallimard qui porte le titre « Une théorie de l'amour ». Et c'est comme un appel qui s'impose, une urgence à reparcourir les sillons qu'il a tracés, tant avec ce nouveau recueil qu'avec deux recueils antérieurs, « Levez-vous du tombeau » et « Traiter des sentiments contraires ». Dans le droit fil d'une réflexion sur le lyrisme qu'ont développé des philosophes comme Heidegger ou Paul Ricoeur, ou des poètes comme Jean-Michel Maupois, chaque recueil de Jean-Pierre Siméon interroge ce qu'il nomme lui-même « la loi d'Orphée ». Voici par exemple l'avant-propos sous forme de poème manifeste qui ouvre le recueil « Levez-vous du tombeau ». Il va falloir enfin que la poésie gouverne, elle qui n'a ni pouvoir ni assurance, elle dont la pensée est tantôt cheval de steppe, tantôt poignée de mésange jetée au vent. Il va falloir s'attabler à son désordre, étant donné les ordres. Désordre hautement désirable, seule liberté qui ne soit pas soluble dans l'excuse. Assez d'assigner toutes choses à nos desseins. Arbres, rochers, pluies, abeilles et rivières, il s'agit de les libérer de l'idée et, selon la loi d'Orphée, de reconnaître en elles les maîtresses d'un champ que nous ignorons. À ce point de l'histoire, plus de doute. Nous sommes les violents, la vanité interdisant l'amour. Nous n'avons fait que saisir, sans étreindre. Seul, le poète n'est pas l'usurier de la vie. Il donne sans rétribution, mais il ne donne que ce qui ne se possède pas. Il va falloir combattre des mains, des yeux, des lèvres, la laideur. Laideur d'actes et d'intentions dont sont la cause la puérile peur du vide et toutes fins qui ne sont pas d'amour. Le poète n'a que des rébellions amoureuses, c'est-à-dire sans égard pour les chaises bavardes. Il n'est pas même l'ennemi de ses ennemis parce qu'il ne mange pas de leur pain amer. Ses colères, souvent, sont joyeuses et rondes, comme clairières dans la forêt. Tu es le poète, ô Lorca, la poésie renaît dans le soleil qui suit. Sous le gouvernement de la poésie, la laideur, bien sûr, comme toujours, aurait sa part. On n'échappe jamais tout à fait aux mollesses du cœur. Mais la vie, simplement, serait à chacun le seul objet de son désir. Plus encore, le traité des sentiments contraires, dans son avant-propos, brocardait, je cite le poète, « une législation implicite, des principes et interdits souverains, je le cite encore, dont les plus notables sont depuis 50 ans le déni de la métaphore, le refus de l'harmonie rythmique au profit de la dissonance et du discontinu, la rétention de la langue, langue trouée ou raréfiée, jusqu'à signifier parfois l'aphasie, ou à l'inverse, son débondage, qui, par accumulation et ressassement, désavoue la forme poème en lui substituant une matière texte, le mépris de l'idée, selon l'axiome qui dit qu'on fait de la poésie avec des mots, non avec des idées, une saisie du réel contre toute reconstruction idéaliste ou sentimentale, dans l'ordinaire, le banal et le trivial, l'exclusion du beau devenu l'ennemi du vrai et, bien sûr, la contemption du lyrisme qui n'est tolérable que se récusant lui-même, sec et contenu. contredire point par point chacun de ses attendus. Telle est la tâche que s'assigne le poète sur son métier à tisser. Pour ce faire, sa lyre a 7 cordes qui composent la première partie de « Levez-vous du tombeau ». La corde de l'oiseau, la corde de l'arbre, celle du silence, la corde des rivières, la corde des vents, la corde du temps et enfin la corde de l'ombre. Pinçons la première, la corde de l'oiseau, dont je fais la lecture. La corde de l'oiseau, l'aventure humaine toute, la pesante aventure humaine, vaut-elle le chant inutile de l'oiseau qui éveille l'air dans la fraîcheur d'un matin ? Que restera-t-il du monde après le monde, sinon par bonheur, l'écho, léger comme une soie, du chant de l'oiseau et de sa tranquille mansuétude. Oh, la grande pauvreté du chant de l'oiseau, aussi nue, aussi frêle que son aile donnée au vent. Oh, cette pauvreté qui nous juge et devant quoi les villes s'effondrent. A-t-on jamais vu un oiseau dormir ? Il vole ou il chante, ou il regarde immobile le temps traverser l'espace. Il ne songe pas comme nous à la mort qui s'ensuit. L'oiseau ne pense pas, il fait de la présence une chose simple, une patience qui mûrit comme un fruit. L'oiseau jamais ne craint de perdre la lumière. N'est-ce pas lui, si un hiver la dérobe, qui franchira l'infini du ciel pour la retrouver ? Le secret de l'oiseau, son vol, ni son chant, ne sont un métier, ce sont des grâces consenties. Et ce privilège, il se nourrit de rien au ras du sol, lui qui connaît infiniment la hauteur. Qu'est-ce donc que la poésie ? Parole d'homme, faite oiseau, et dans cette parole montante, essor de l'homme en lui-même, au-dessus de lui-même, demeure entre la mort des feuilles et la flamme des soleils.
Thank you.
Et dans le corps du recueil « Levez-vous du tombeau », élisons ces deux poèmes sans titre. Nous aurons tant aimé la mort des soleils glissant sur la pente des toits ou parmi les ombres basses du soir au bord des paysages. Quelque chose alors doucement nous parlait à l'oreille qui disait « Vous serez bientôt des oiseaux perdus dans la nuit. Prenez donc au feu mourant la beauté qu'il faut pour traverser le noir. » Voici la leçon simple. La lumière qui tombe sera la lumière qui monte. Nous sommes contemporains du matin dans le soir. Et puis, l'or épars du crépuscule sur la mer. Si le cœur le plus usé en bat plus fort, n'est-ce pas que non l'idée, mais sa chair fait l'immense, intelligible à l'homme ? C'est l'heure, ah, étrange des solitudes, où l'âme à fleur de peau fait alliance avec tout ce qui dans l'air s'énonce. Le tremblé clair des lucioles, le dernier vol ivre de l'abeille, l'hésitation des couleurs et la brume, visage déjà de leur sommeil. Tombée du jour, ô ciel, qui se prolonge dans sa mort, mais qui, si notre cœur, comme la terre l'accueille, sera le lieu et la raison d'une lumière autre. Voyez que les beaux soirs sont un chemin, dans le temps arrêté, le projet d'un jour qui consent à sa nuit et fait l'âme franchir sa peur de l'inconnu pour rejoindre, tombant dans l'obscur, l'évidence d'un matin qui a toujours raison. Nous nous plaindrons de nos fatigues une autre fois, nous pleurerons de nos larmes plus tard, ou que d'autres pour nous le fassent, après notre mort. En attendant, la clarté nous demande, habitons notre veille comme un voilier le vent, et refusons de marcher à côté de nos rêves. Dans la foison des gestes, il y a la main qui tombe, et la main qui décide, de ramener à soi dans la nuit les restes d'un soleil épars pour en couvrir le froid. La mort est notre pain. Qu'elle donne soif des rivières et du chant qui en est le souvenir dans la parole. Ne mendions rien, prenons vorace ce qui ne se possède pas, tous les élans du cœur, toutes les étreintes, les rires qui montent dans la gorge, comme ces silences dans la brume, qui dorment sur les temps, comme aussi bien ces fruits dormants dans la bouche des amants. Et comme la main tendue par l'inconnu qui nous relève, l'inconnu à face d'homme, ou l'inconnu sans visage, qui paraît dans les couleurs du jardin, ou le galop d'un cheval sous le vent. Le traité des sentiments contraires se veut l'écho du Forellen Quintet de Schubert, la truite. Il se présente comme un diptyque dont le premier volet s'intitule « L'avalanche des larmes » et le second, pour paraphraser le Forellen Quintet, « De la joie peut-être ». Comme pour traduire « Le bonheur fragile » est toujours menacé d'ombre que Schubert a vécu et retranscrit dans sa musique. L'ensemble du recueil était dit par le comédien récitant Didier Sandre sur la musique du quintet, quintet qui a son revers et son répond sombre avec les leaders du Winterreise, du voyage d'hiver. Lisons alors deux extraits de ce traité des sentiments contraire. Vivre n'a que le visage que nous lui donnons, et dans l'horreur du temps qui fuit de toutes parts, regardons-nous qui marchons, le cœur troué et sans assez de paupières pour tant de larmes. tant de ces larmes venues sans mémoire du fond des âges. Visage, ô visage des hommes sous la jonchée des astres, un long malheur de gestes errants, de fronts ployés, toujours le cri de Munch et cette ombre béante qui fait que l'âme hurle jusque dans le sommeil. Et puis, voyons, c'est nous, cette enfance qui meurt, dans chacun de nos pas qui meurt et remeurt à chaque instant, elle brisée d'un ange qu'il nous fallut inventer pour nous croire exemptés du supplice des heures. Vivre nous traverse, amis, comme un vent déchiré et qui s'éloigne en riant des branches dévastées. Ou cet autre extrait. Allons, voyons un peu où mène la beauté quand elle veut bien, la beauté du monde, la réelle dans la plaie, des jours infinis, non pas la beauté grande qui tonitrue et parade, mais la beauté qui s'offre en mille bontés particulières. C'est rien, c'est personnage dans l'étendue des peines et du labeur banal. Nommons la beauté cette venue du ciel dans la bouche, quand, rompu, on ouvre la fenêtre sur la fraîcheur d'un jardin, quand, laissé la sueur des draps, on se tourne vers le chant du loriot et que vient sur la langue une saveur frêle de résine et de mousse. C'est assez, alors, se dit-on, que ce printemps s'en preuve. Le recueil de Jean-Pierre Siméon, qui vient de paraître, comme on l'a dit, Une théorie de l'amour, propose aussi hardiment un paragraphe d'ouverture qui sonne comme un défi. Je le cite. « Je sais bien que, s'agissant de poésie, qui veut mal de mort à la froideur du concept et à l'esprit de système, ce titre, Une théorie de l'amour, semble contrevenir au bon sens. » Je tiens cependant que c'est trop rapidement en juger. La vérité est qu'aujourd'hui, plus que jamais sans doute, la pensée du monde, de la vie et de ses circonstances, otage des machinologues en tout genre, s'asservit pour notre malheur à la souveraineté d'une abstraction qui s'épargne les démentis du réel. Seul objecte à mes yeux, à cette emprise délétère, ce que la poésie depuis toujours fomente. Une compréhension des choses non surplombante, mais impliquée, sensuelle assurément, qui a aussi pour moyen la main et le pied. La pensée dans le poème a du corps, enfin, et c'est le corps du monde, et c'est le corps de chacun. En quoi elle s'accroît d'un souffle, d'un rythme, d'un dynamisme, pulsation du sang et du vent. Le poème réchauffe le concept et soumet la pensée au vivant contre-ordre que recèle la liberté native du réel. Mouvement perpétuel, mort du dogme, il est temps de repenser poétiquement la vie. Pour repenser poétiquement la vie, le recueil prend une fois encore la forme d'un diptyque. D'abord, pour citer le titre avancé par le poète, 130 propositions, théorèmes tremblants, injonctions fragiles et autres formules amoureuses destinées. Puis, 30 poèmes qui comportent tous un titre que l'on retrouvera en les lisant dans le corps même de chaque poème. J'ai élu tout d'abord ces quelques injonctions ou propositions ou théorèmes qui m'interpellent plus intensément encore que toutes ou tous les autres. Que nous importe une pensée qui ne trouverait pas sa loi dans la chair exténuée du plaisir ? Pensée froide, pensée sèche et, plus grave encore, pensée qui ignore sa fatigue. Touche-moi d'une parole qui soit poignée de sel dans le feu. Douceur, au fond du ruisseau, rien qu'une herbe plus haute dans un lit de pierre. Il faudrait sacraliser le besoin de douceur. Ce qu'on perd de la vie à chaque instant, comme si on courait avec un seau trop plein. L'amour est ce trop plein, et comment le contenir ? N'est-ce pas la question de toute existence ? Nous sommes voués à la césure, séparés d'avec l'autre, séparés en nous-mêmes. L'amour, désespérément, tient les blocs qui s'éloignent. L'amour véritable, comme l'espoir véritable, ne sont pas carnassiers. Ils se nourrissent de plancton, de rien insoupçonné et d'instants invisibles. Dans le cadre du second grand volet du diptyque, j'ai choisi de lire parmi les 30 poèmes le 11e qui porte le titre « Le haut chant des noces s'il manque ». L'amour n'a pas d'autre lexique que celui des simples qui dit que le ciel est un ciel. Et ta main, un nuage de porcelaine dans ce ciel. L'amour veut un lexique vertical, des mots debout comme ton regard, le premier debout au matin, car le soleil le demande, des syllabes qui sonnent haut, comme les cloches du vent sur les sommets, et dont l'écho porte dans leur clarté l'ombre de Lubac. L'amour veut, dans la langue, un tintement de phonolite, un son comme un rire, qui soit la plus extrême alliance entre la chair et le souffle, le haut chant des noces s'il manque, qui mettrait en péril la phrase amoureuse, car la parole est comme nous, sans le risque de l'ardeur, vent levé, elle est blanche comme la mort. Les mots qui aiment sont bâtis dans l'air. Eurydice, Eurydice, entends-tu dans ta nuit battre là-haut le cœur du soleil ? Qui donc chante avec des oiseaux dans la voix ? Le haut langage qu'on invente pour l'amour et pour la mort, il prend son essor toujours dans le silence qui naît au revers du cri et au chant se marie.
Was vermeid ich denn die Wege, wo die anderen Wanderer gehen? Suche mir versteckte Stiege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stiege durch verschneite Dass ich Mensch
Et je vais lire à présent le tout dernier poème du recueil Une théorie de l'amour, le 30e qui porte le titre « Nous pouvons encore dire les mots étranges de l'amour ». Nous pouvons encore, c'est étrange. Nous pouvons encore dire les mots étranges de l'amour après des millénaires de fruits cueillis aux lèvres, de milliards de corps couchés dans la lumière de l'autre, après des milliards de traversées de cette voie lactée, le désir. Après que tant de femmes et d'hommes ont gravi dans un baiser, des montagnes plus hautes que les montagnes les plus hautes, après tous et toujours de pacotilles ou de grands larges, serments feuillus, branches brisées, ô cœur, quand le vent tombe, avec le vent tombé, après tant de nuits infiniment, et qui furent fleuves ou cris d'oiseaux ou chants dormants, tant de corps dans ces nuits, après tant de joies perdues entre la bouche et la parole, après que tant de regards ont mis la vie au centre d'un soleil, à la lèvre d'un chant, au sommet de la nuit la plus pure, et qu'ainsi depuis toujours tout a été dit du vertige et de l'effroi qui sont les seuls témoins d'une existence vraie, nous pouvons encore, c'est étrange, dire les mots étranges de l'amour, malgré la grande mort qui mange le langage des hommes, à force qu'ils manquent à l'amour et à son courage, nous pouvons encore. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement, tout d'abord, l'andantino de la sonate pour piano numéro 20 de Schubert, interprété par la pianiste Mitsuko Uchida. Puis, vous avez pu entendre le premier lied des Dichterliebe, les amours du poète de Schumann, interprété par Jan Bostridge. Ensuite, vous avez pu entendre deux leaders du voyage d'hiver de Schubert. D'abord, le lead Der Wegweiser, pardon pour la prononciation, le panneau indicateur, interprété par Jonas Kaufmann. Et enfin, le lead Wasserflute, interprété par Hermann Prey. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.